1.
9h, 11h.
Wendy Bouchard.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez après une heure, première heure consacrée à Israël. Je vous propose un tour de la question sur la voyance et la médiumnité. Avez-vous eu déjà recours à un voyant et en quoi cette femme ou cet homme vous a aidé, accompagné, soulagé, conforté, fait réagir, fait douter peut-être ou a guéri? Les stages, les consultations, les applications sur le net aussi sont pléthores et elles prouvent que nous sommes là face à un sujet de société. 3 millions de Français solliciteraient des voyants, des médiums, des astrologues chaque année. 100 000 spécialistes exerceraient cette activité, sans compter tous ceux qui développent des dons et qui consultent sans être précisément répertoriés. À qui faire confiance et en quoi cela nous aide-t-il à avancer? Que nous soyons simples citoyens ou présidents de la République, vous voyez vers qui je me tourne dans le passé, on vous attend au Standard Europe 1. Cher Julie, là, pour le coup, vos témoignages nous font avancer sur le sujet. Hein.
39-21, on vous écoute au Standard Europe 1 et pour les réseaux sociaux, le hashtag Europe 1.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Avec nos invités, Catherine Cavaillat, qui est médium et voyante à Paris. Bonjour madame. Avec Stéphane Alix, journaliste, écrivain, fondateur de l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Merci de venir nous éclairer l'un et l'autre. Et d'abord, je pense qu'il faut faire un petit point de synthèse sur les disciplines que nous évoquons. Car nous sommes souvent face à un pêle-mêle, on confond les choses et j'aimerais que vous nous disiez un petit peu clairement comment distinguer la voyance du côté médium, de l'astrologie. Qu'est-ce que c'est qu'un voyant, qu'une voyante, Catherine Cavaillat?
Alors pour moi, une voyante, c'est quelqu'un qui fait appel à l'au-delà, à ses ressentis, pour vous décrire votre avenir. Voilà. Moi, je suis médium, donc la différence en fait... si on peut appeler ça une différence, mais quand même, elle est notable. C'est-à-dire qu'un médium peut être voyant, un voyant peut être rarement médium.
Le médium fait la médiation entre nous sur Terre et le monde de l'au-delà, le monde des morts.
Des défunts,
que
voilà.
Que vous pouvez convoquer.
Convoquer n'est pas le mot.
Oui, mais qui vous appelle en tout cas.
Ils viennent ou ils ne viennent pas.
Oui.
Et effectivement, on établit un contact entre les défunts et les vivants.
Ça veut dire que médium est un don, Stéphane Alix, peut-être au contraire de la voyance qui aussi se travaille.
Moi, j'ai un regard de journaliste, donc j'essaie d'analyser en fait le phénomène dont on parle. Et pour moi, je distingue vraiment quelque chose de très différent entre ce qu'on appelle médiumnité, qui pour moi correspond à la communication avec des personnes défuntes,
oui,
et la voyance, qui est l'obtention d'informations éventuellement sur le futur d'une personne ou sur la vie d'une personne que le consultant ne connaît pas. Donc la recherche s'est penchée sur ces deux sujets avec des approches très différentes pour essayer d'objectiver ces phénomènes. Voilà, on pourra en développer si vous le souhaitez.
Oui, on peut travailler par exemple quand on parle de voyance sur la numérologie, sur les cartes, les tarots, vous pouvez vous appuyer là-dessus. Ça veut dire que là, il y a une discipline qui se prépare. Il faut connaître les codes, Catherine Cavaillat.
Tout à fait, tout à fait. Alors moi, j'ai cette grande chance de le pratiquer sans carte.
D'accord.
Par le biais de l'écriture automatique ou mes ressentis purs.
Ça veut dire quoi l'écriture automatique ?
L'écriture automatique, c'est le besoin irrépressible d'écrire sous l'impulsion.
D'accord.
Voilà.
C'est comme si une petite voix vous parlait et guide votre main ?
Tout à fait.
Par exemple, vous êtes en consultation avec un homme ou une femme et il y a des choses qui vous arrivent. Donc
qui
vous prenez
arrive et j'écris.
D'accord.
Voilà, j'écris. Alors j'écris, je ne sais pas ce que j'écris. Je le découvre en même temps que je l'écris. Et puis bien sûr j'ai mes ressentis, c'est-à-dire pour moi mes ressentis, des évidences, mais des écoutes également, j'entends.
D'accord, donc quand vous écrivez, ensuite vous prenez cette feuille que vous relisez à la personne que vous avez face
à vous.
Tout à
fait, exactement.
Et vous ne savez même pas ce qu'on vous a
c'est-à-dire
demandé
que souvent, d'écrire. Exactement, souvent ça me donne des précisions que je n'ai pas, des dates par exemple. Voilà.
Ça c'est assez impressionnant. On peut se fonder aussi sur l'astrologie, c'est-à-dire qu'on peut partir, Stéphane Alix, là je vous demande aussi votre expertise journalistique, d'une date de naissance, du lieu de naissance.
En fait, il y a différentes techniques.
Qui permettent de voir un peu le ciel justement de la personne.
Médiumnité, voyance, ce sont des techniques qui font appel à des dispositions humaines d'une personne par rapport à sa sensibilité, sa capacité à percevoir des choses dans le monde du subtil. L'astrologie, c'est une technique de calcul, d'analyse, qui a été développée notamment en Chine depuis plusieurs millénaires, qui fait moins appel à une disposition sensorielle de l'être humain.
À un don, pour dire vrai.
Moins appel à un don.
C'est ça. Donc après, on peut être astrologue sans avoir justement une hypersensibilité.
Exactement. Ouais. Exactement. C'est presque comme un médecin acupuncteur qui va apprendre sa médecine, qui va apprendre l'acupuncture, mais qui n'a pas spécialement besoin, en dehors d'une certaine empathie envers ses patients, d'un don particulier.
Oui, on n'est pas tous égaux justement face à cette extrasensibilité. Pense, oui. Vous avez eu aussi peut-être un terrain familial, en tout cas une curiosité dès l'enfance, très clairement, Catherine Cavaillat.
Oui, tout à fait. Oui, oui. Mon grand-père trouvait l'eau, ma grand-mère guérissait.
Oui.
Donc j'ai toujours, de près ou de loin, été mêlée à ce genre. Et puis, bien sûr, des événements qui vous arrivent lorsque vous êtes petite.
Bien sûr, mais par exemple, ça a sauté une génération ou vos parents aussi ont développé ces dons-là?
Ça a sauté une génération, effectivement.
Ouais. Bah, c'est intéressant. Vous allez nous dire voilà, concrètement comment ça se passe quand vous recevez une personne en consultation, sachant que vous avez un métier par ailleurs et que vous développez ce don aussi en parallèle. Stéphane Alix va nous raconter aussi son histoire et le principe de cet institut de recherche sur les expériences extraordinaires. Et j'aimerais que vous nous donnions la parole dans quelques instants à Jamel qui va témoigner aussi de ce don qu'il développe régulièrement. Europe 1.
Jusqu'à 11h, retour de la question consacrée aux voyants et aux médiums. Pourquoi fascine-t-il autant Wendy Bouchard et ses invités?
Tout de suite, ma chère Julie, donner le résultat de la consultation Facebook, si vous voulez bien. Avez-vous déjà eu recours à un médium ou à un voyant?
Non, à 80%. Mmh. Alors, il y a des petits commentaires. Non, ce sont des vendeurs de rêves, nous dit Pascal. Une fois, par curiosité d'esprit cartésien, ça c'est Pascal. Mmh. Ah ben, un autre Pascal.
Ah oui, c'est pas mal. D'ailleurs.
Voilà. puis il y a beaucoup de rien de vrai, nous dit Isabelle. Ça ne sert à rien, nous dit Sophie. Et Patrick écrit... Allez juste voir une fois dans les salons de bien-être et de voyance, vous serez surpris par le nombre de personnes qui attendent pour une consultation de voyance.
Eh oui, il y a une curiosité, très clairement, Stéphane Alix, journaliste, écrivain, on va parler de votre livre « Après, quand l'au-delà nous fait des signes », une vraie curiosité à la fois sur le côté médium et sur le côté voyant. Comme journaliste, vous êtes face à une tendance aussi que nous décrivons.
Bah, on est dans une société qui est en crise, donc effectivement, les gens cherchent des réponses et la voyance est un univers un peu magique qui fascine, qui fait l'objet de beaucoup de fantasmes, mais qui peut parfois aussi avoir la capacité qu'ont des êtres humains à capter des informations dans un monde subtil est une réalité qui a été prouvée en laboratoire, qui a même été utilisée par le renseignement américain, le renseignement russe, de façon tout à fait pragmatique. Donc c'est quelque chose qui est connu, qui est construit, qui est un peu mystérieux, on ne sait pas comment ça marche, mais on sait que des gens sont capables, enfermés dans une pièce, de voir des choses qui sont à distance, de percevoir des choses qui vont se passer dans l'avenir. Mmh. Donc ça, c'est un fait objectivé en laboratoire. Après, dans la pratique de la voyance, vous avez tout et n'importe quoi. Vous avez des gens très bien intentionnés, qui ont vraiment une éthique intérieure, et puis vous avez des sites internet qui sont pour moi des escroqueries absolues. Mais là aussi, il faut faire un petit peu appel au bon sens des gens. Si vous allez sur internet et qu'il y a 36-15 je ne sais pas quoi qui vous promet l'avenir, vous doutez bien que ce n'est pas des gens sérieux qui sont derrière. Il faut aussi faire preuve d'un peu de...
C'est sûr.
Il y a des charlatans.
Oui.
C'est à nous de nous en protéger initialement dans notre exigence de sérieux peut-être.
En même temps, il existe aussi une certaine détresse sociale. L'engouement pour notamment la libre antenne le soir présentée par Sophie Peters est manifeste. C'est-à-dire ce besoin de parler, de dialoguer, de dire aussi la réalité, de faire état de ces états d'âme, Catherine Cavaillat, vous êtes bien placée pour le savoir.
Tout à fait.
Vous êtes médium et vous avez développé aussi ces capacités de voyance. Vous consultez à quel rythme, vous, par ailleurs, parce que vous êtes manager d'un restaurant. Hein,
oui, tout à
aussi
fait.
Aussi professionnellement.
Bon, exact.
Vous avez quel rythme de consultation?
C'est-à-dire?
De voyance et de médium.
Je consulte tous les jours.
Tous les jours?
Tous les jours.
Oui, le matin, le soir plutôt?
Le soir.
Oui, parce que vous avez besoin d'une concentration, évidemment.
Bien sûr, oui, tout à fait. Non, j'ai un rythme, si vous voulez, je travaille chaque jour et je reçois chaque jour. Alors, majoritairement, ce sont des gens qui viennent effectivement pour des contacts avec les défunts.
Ah, d'accord. Donc là, on est dans le côté médium, justement.
Exactement.
Ils ont besoin de vous pour faire le relais.
Oui, tout à fait. Et puis, j'ai également, bien sûr, des consultations de voyance pure.
Mm-hmm.
Et effectivement, je pense que ça correspond surtout à un besoin de parler, d'échanger, de se confier, de confier son chagrin.
Oui, et puis d'être aidé aussi dans des changements de vie, dans des parcours professionnels. Hier soir, en préparant cette émission, j'ai tapé sur Google Voyance, recherche de voyants. Je suis tombée sur une plateforme Voyance avec une quinzaine de voyants connectés en ligne. Alors, je ne sais pas du tout ce que vaut ce site-là, si c'est du charlatanisme ou pas, mais en tout cas, ça prouve quelque chose.
C'est du charlatanisme, évidemment.
Oui, parce qu'on ne sait pas du tout qui est derrière et qui vous fait ça peut être n'importe qui.
Ce sont des gens comme vous et moi qui sont embauchés par ces plateformes-là. C'est de l'escroquerie évidente. Vraiment. La médiumnité, enfin la voyance, c'est quelque chose qui demande un certain nombre de mises en place, une relation humaine de face à face.
Bien sûr.
C'est, c'est un travail subtil. Et évidemment, toutes ces plateformes, toutes ces annonces que vous trouvez dans les revues à droite à gauche, ce sont évidemment des escroqueries. Enfin, oui. C'est l'évidence même.
Alors, je vous ai demandé en préambule de nous expliquer la différence entre astrologue, voyant, médium. Oui. Il peut y avoir des passerelles, évidemment, mais c'est important de faire le distinguo, Stéphane Alix, notamment parce que vous avez beaucoup travaillé sur la place du médium. Le médium qui traduit une volonté de recherche, de connexion avec une personne disparue parce qu'on a besoin de lui parler, parce qu'on se sent orphelin sans elle ou sans lui, avec tout ce qui peut y avoir de bon et de négatif dans cette histoire.
Bah, effectivement, moi, je me suis intéressé à cette question-là par la porte d'entrée de la mort, parce que j'ai perdu un frère dans un accident de voiture qui a déclenché mon envie en tant que journaliste de travailler sur ces sujets. Ça fait 17 ans. Et par rapport à la médiumnité, j'ai essayé d'avoir une approche très pragmatique. Voilà des gens, des femmes, des hommes qui prétendent communiquer avec l'au-delà. Ok, très bien, bah on va les tester, on va vérifier si vraiment, quand on les met dans des conditions de laboratoire, ils sont capables d'obtenir ces informations-là. Et je l'ai fait notamment dans une expérience que je relate dans un livre qui s'appelle Le Test, qui est sorti en poche, au livre de poche il y a quelques mois, que j'ai écrit après avoir caché dans le cercueil de mon père différents objets. Et un an après, je suis allé voir 6 médiums, oui, sans leur dire évidemment ce que je voulais faire, en leur prétextant un livre d'entretien sur leur travail. Et je leur dis, on va juste faire une séance de médiumnité pour voir ce qui se présente. Et pour moi, l'objectif était de voir si mon père allait se présenter spontanément et s'il allait parler des objets. Et c'est ce qui s'est passé. Et je raconte dans ce bouquin l'intégralité des 6 séances avec non seulement mon père qui se présente, mais d'autres personnes de ma famille. Et c'est ça qui est extrêmement troublant dans la médiumnité. C'est que quand on met des médiums dans des circonstances vraiment de laboratoire ou d'objectivation de leur dire, on est en face de personnes qui sont capables de vous donner des informations extrêmement précises, qu'ils n'ont aucun moyen conventionnel d'obtenir, soit la triche, aller chercher sur Internet avant parce qu'ils vous connaîtraient, ou même ce qu'on peut appeler en psychologie la lecture à froid, ou l'espèce de capacité de déduire de vos petites réactions sur votre visage, si vous êtes sur la bonne piste ou pas. Quand on teste des médiums en laboratoire ou des chercheurs ont fait ça notamment aux États-Unis, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est vrai, ça marche. Et ça, c'est extrêmement troublant parce que ça ouvre... Voilà, comment est-ce que un médium qui ne connaissait pas mon père, tout d'un coup, peut me dire « Tiens, c'est marrant, votre père me montre un pinceau », alors que j'avais caché notamment un pinceau dans son cercueil et puis d'autres objets.
Incroyable.
Et, ouais. Et ça, voilà. Et ça, c'est une manière d'objectiver quelque chose. Oui. Après, comment ça se passe, voilà. Pourquoi, là, oui. Ça ouvre plein de questions. Mais...
Ça peut être fort, ça peut alléger ou alourdir au contraire aussi. Hein,
bah, pour revenir à votre question, effectivement, oui, pardonnez-moi, je vois énormément de gens en deuil qui vont consulter des médiums. Il y a de tout. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose qui peut être extrêmement bénéfique dans un parcours de deuil. Mmh. Mais il ne faut pas que ça remplace l'absence du défunt. Et souvent, on va voir un médium dans les mois qui suivent un décès avec une espèce d'espoir absolu de renouer un contact.
Oui.
Si cet espoir est satisfait et que cette impression, cette possibilité offerte, cette espérance que le défunt soit encore quelque part sert à apaiser un peu de la douleur et à faire engager le parcours de deuil sur une voie un peu plus apaisée, c'est super. Mais si à l'inverse, ça entretient une sorte d'illusion que le défunt, en fait, on peut lui passer un coup de fil quand on veut, par l'intermédiaire d'un médium, qu'il est toujours là.
C'est totalement aléatoire.
La blessure ouverte du deuil, elle ne se referme pas. Mmh. Et là, on est dans quelque chose qui devient très pathologique.
Oui.
Mais la plupart des médiums que j'ai rencontrés sont très lucides et très conscients de ça, et sont bien les sûr. Premiers à dire aux gens « je ne veux pas vous voir avant un an, ça ne sert à rien que vous reveniez, on va
exactement.
Dire la même chose. »
Parce que vous avez évidemment cette tendance face à vous, Catherine Cavaillard.
Tout à fait. Mmh. Et parfois, j'ai des consultants qui viennent me voir pour une consultation de voyance, et un proche apparaît. J'ai une dame, une fois, qui est entrée dans mon cabinet, et donc une consultation de voyance s'établit. Et puis très vite, je ressens derrière moi un monsieur qui est là, qui se tient, et qui tient sa tête dans sa main. Donc j'explique à la dame, écoutez, il y a un monsieur qui vient d'entrer là, et qui a sa tête dans sa main. Donc elle m'explique qu'en fait, il s'agissait de son premier mari qui était décédé dans un accident de voiture. Donc il est passé sous un camion, ce qui explique...
La tête coupée.
Voilà, la décapitation. Et on a commencé en fait un contact. Et en fait, elle n'avait pas résolu son deuil, même si elle s'était remariée, mais elle n'avait pas, si vous voulez, résolu le deuil. Et elle se posait toujours des questions. Et je pense que cette consultation lui a permis d'avancer dans la vie. Elle est partie rassurée. Je le voyais à ses yeux. Elle était beaucoup mieux. Je pense qu'elle va mieux avancer maintenant. Et je pense qu'elle n'aura pas besoin de consultation avant 2-3 bonnes années.
Incroyable. Voilà. Ce récit, notamment, Catherine Cavaya, de la médium et de la voyante que nous recevons, vous consultez en région parisienne. Stéphane Alix est avec nous. Vos témoignages à suivre jusqu'à 11h pour faire le point sur ces arts divinatoires qui vous fascinent et toutes ces consultations qui sont à l'avenant. Vous avez peut-être aussi eu besoin, ou vous avez besoin en ce moment, d'un voyant ou d'un voyant ou d'un médium. Là, j'ai fait le voyant, j'ai fait la synthèse.
Le voyant, c'est mignon.
Profession astrologue, voyant, médium, on en parle jusqu'à 11h avec Wendy Bouchard et ses invités.
Et c'est passionnant que vous nous éclairiez l'un et l'autre, Stéphane Alix, journaliste, écrivain, fondateur de l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires, et Catherine Cavaya, médium et voyante à Paris, sur ces arts auxquels, alors discipline, art, je ne sais pas comment on peut appeler cela, discipline, Catherine Cavaya.
Pour moi, c'est une discipline, bon. Je le considère comme une discipline à part entière.
Ce ne sont pas des sciences, hein, et évidemment, on est plus dans l'ésotérisme,
science,
comme on dit.
La science les examine. Moi, si je me suis intéressé en tant que journaliste à ces sujets, c'est parce que justement, il y a des éléments scientifiques, oui. Il y a des études, il y a des preuves qui sont extrêmement troublantes. Sinon, j'aurais considéré ça comme une croyance et j'y aurais passé 2 mois et puis c'était fini. C'est vraiment un sujet extrêmement sérieux
c'est
qui pose des grandes questions sur la nature de l'être humain.
C'est pour ça que grâce à vous, on le traite aussi sérieusement. Tout à l'heure, Julie nous donnait la réponse à notre consultation. Est-ce que vous avez déjà eu un recours à un médium ou un voyant? Et Pascal nous disait oui, une fois par curiosité d'esprit cartésien. Car c'est vrai que nos esprits cartésiens sont un peu enfermés et on se dit finalement, tout ça, c'est du surnaturel, ça nous fait peur, ça nous dépasse, ça convoque des choses qu'on ne connaît pas très bien dans nous.
Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai des consultants qui, au départ, passent la consultation dure environ 1h, 1h30, et la personne, pendant la première demi-heure, alors moi, je parle beaucoup, puisque bon, je suis médium pur, donc ils me disent toujours non, 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 ça ne m'évoque rien, non, 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 non. Ouais. Et une fois, c'est ce que... Enfin voilà, j'ai eu un consultant qui s'évertuait à me dire non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. Et puis, son chien est venu. Il avait perdu son chien il y avait une quinzaine d'années. Mmh. Et son chien était décédé, était mort dans une fosse septique. Et donc, je lui explique ça. Alors là, enfin, il s'est posé, il s'est détendu.
Ça a touché quelque chose en lui.
Voilà, ouais. Et on a pu continuer de parler, d'échanger.
J'aimerais que nous écoutions un auditeur qui est fidèle d'Europe 1 et vous avez eu l'occasion souvent de venir. Bonjour Jamal.
Bonjour Wendy, bonjour à vos invités et bonjour à Julie et bonjour à tous les auditeurs et auditrices d'Europe 1.
Je vous dis que vous avez eu beaucoup l'occasion de revenir, notamment dans l'émission que je présentais Europe Midi, où vous preniez la parole, oui. Etc. Depuis, on se connaît, Jamal. Moi, je me souviens d'une fois où à la fin d'une émission, vous êtes venu me voir en me disant voilà, je suis auditeur, j'aime beaucoup ce que vous faites. J'ai aussi des talents de voyant, enfin des dons en tout cas. Exactement. Si un jour vous avez besoin de moi, je suis là. J'ai eu affaire à vous, en effet, cher ami, vous m'avez beaucoup aidé, donc je mets tout de suite la certification de qualité à ce que va dire Jamal aujourd'hui. Vous êtes voyant, mais vous avez un métier par ailleurs, hein, donc vous êtes éclipsé d'ailleurs quelques instants.
Exactement, je suis consultant en formation, voilà. Je travaille sur Paris.
Oui, donc bon, vous êtes en lien avec des personnes régulièrement, mais vous ne vivez pas de ces dons de voyance aujourd'hui, simplement c'est quelque chose que vous développez.
Que je développe et que je le fais en activité en parallèle. Mon emploi alimentaire, c'est plutôt le job que j'occupe actuellement.
C'est ça. Vous pouvez dire que vous avez un don de voyance aujourd'hui. Vous sentez des choses très fortes et vous aidez des gens justement à aller mieux grâce à ce que vous ressentez.
Exactement, parce que moi j'ai un don qui est très particulier. C'est dû à une enfance très dure et très malheureuse. J'ai eu un parcours de vie très douloureux. J'ai connu les hôpitaux et c'est après une intervention chirurgicale qui était très lourde pour moi. Et c'est après cette intervention, quelques temps après, je sentais des choses en moi qui étaient quand même étranges. Je voyais, je sentais les gens. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Mmh. Et par la suite, ça rentrait dans mon quotidien tous les jours. J'avais beaucoup de mal. Je me demandais qu'est-ce qui se passait autour de moi. Je me suis dit, peut-être c'est suite à cette intervention, peut-être ça. Et par la suite, je me suis aperçu que je développais des dons. Par exemple, il y avait des rêves prémonitoires, effectivement. Il y avait des gens autour de moi, des infirmières, tout ça. Je leur disais, attention, faites attention à ça. Et ça s'est révélé positif. Et par la suite, j'ai développé tout ça. Par la suite.
Oui, ce qui fait qu'en contactant les uns et les autres, vous avez fait la même démarche qu'avec moi en disant je peux vous aider, je peux vous aider. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui vous appellent, qui vous rencontrent, que vous aidez dans leur parcours professionnel ou personnel, Jamal ?
Oui, je les aide dans leur parcours personnel et professionnel. Effectivement, parce que là, j'ai quelque chose en moi, c'est que je sens énormément les gens. Énormément. J'ai l'impression que je les connais, que je vis avec eux et je rentre dans leur âme. Mmh. Et je vois énormément de choses. Je peux pas vous l'expliquer. C'est quelque chose de compliqué. Et effectivement, j'ai appris à développer. Donc, je le sais personnellement. Quand je vais vers les uns et les autres, je suis magnétisé à leur dire « faites attention, il y a quelque chose autour de vous ». Comme j'ai fait avec vous, Wendy, je me rappelle, quand je vous ai dit que j'étais médium, je sentais énormément des choses et le contact est fait tout doucement. Et effectivement, un jour, je vous ai fait une consultation, je me souviens toujours, vous m'avez dit bluffant.
Et on va continuer justement, vous allez nous dire un peu les images et probablement Catherine Cavaglia va entrechoquer les siennes et Stéphane Alix va nous dire son ressenti là-dessus. À tout de suite sur Europe 1 pour parler de médium, de voyance et d'astrologie.
Chaque année, ils sont près de 3 millions de Français à solliciter des voyants, des médiums, des astrologues. 100 000 spécialistes qui exercent cette activité qui suscite pour certains la méfiance et pour d'autres la fascination. Wendy Bouchard.
Beaucoup de questionnements en tout cas. Laetitia, on vous donnera la parole au 39-21 dans un instant. Nous avons toujours Jamal en ligne qui a développé des dons de voyance et qui se met au service des uns et des autres pour les aider aussi dans leur vie personnelle, professionnelle. Stéphane Alix est avec nous, auteur de « Après, quand l'au-delà nous fait signe ». Vous allez nous reparler de ce lien de médium avec les personnes décédées chez Albin Michel. Catherine Cavaglia, vous êtes médium et voyante à Paris. Pour réagir à ce que disait Jamal tout à l'heure, il dit « moi je sens les choses ». Alors il est extra lucide, il a développé ses dons. Vous me disiez pendant la pause, Stéphane Alix, on va y venir, qu'on a tous potentiellement peut-être ça en nous. Mais quand on dit « je sens pas cette personne », il y a un peu de ça, du
bien
coup,
sûr,
Catherine Cavaglia.
Bien sûr, il y a l'intuition. Mmh. Il y a des tas de gens qui me disent « je le sentais pas, j'aurais dû m'écouter ».
Ah, c'est ça. C'est-à-dire voilà. Que quelque part en eux, il y avait ce don extra lucide qu'il fallait justement peut-être développer.
Bien entendu. Mmh. Et puis encore une fois, nous sommes conditionnés par l'enfance, par l'éducation, la religion qui peut nous l'interdire. Et puis, c'est vrai que quand on annonce à quelqu'un qu'on est médium, ça fait rire. Généralement, on le cache.
Ça fait rire ou ça fait peur pour certains.
Hein oui, enfin, ça fait d'abord rire parce que les gens ont peur. Donc, ils expriment leur peur par le rire. Voilà. Alors qu'effectivement, je suis persuadée qu'on a tous en nous une capacité d'intuition. Ensuite, on la développe. Ou pas.
Ça veut dire, par exemple, Stéphane Alix, est-ce qu'on est tous médiums ? C'est-à-dire, moi, si je parle à ma grand-père, à ma grand-mère, si certains parlent à leur papa régulièrement, à une personne plutôt qu'à une autre, ça veut dire qu'on développe quelque chose, justement, dans l'au-delà ?
Bah pour le développer, il faut avoir été éduqué à le développer, il faut avoir confiance dans ses ressentis. Moi, dans mon dernier livre, je parle de ces femmes, de ces hommes qui ont eu des contacts spontanés avec des défunts après un décès. Mm-hmm. Ce n'est pas anecdotique, ça concerne 300 000 personnes par an minimum en France, chaque année.
Ah bon ? Avec un décès, donc de leur entourage ?
Voilà, oui. Vous perdez un enfant, vous perdez un conjoint, et dans les jours qui suivent, vous avez une sensation de présence, vous avez un toucher sur l'épaule, vous avez même parfois des apparitions.
Vous avez une histoire très forte d'une maman qui a perdu son fils dans un des attentats.
Oui, ça c'est ce qui a déclenché l'envie d'écrire ce livre. C'est effectivement une maman qui est entrée en contact avec moi après avoir perdu son fils et qui, une dizaine de jours après l'attentat, a eu l'impression de voir son fils la nuit. Et cette maman, en fait, elle était déchirée entre l'impossibilité que cette expérience puisse avoir lieu, parce que c'est pas possible, ça n'existe pas, et en même temps la certitude qu'elle avait vraiment touché son fils. Et elle était déchirée dans sa solitude parce qu'elle pouvait en parler à personne. Or, cette expérience qu'elle a vécue, voilà, je le redis, des centaines de milliers de gens vivent ça chaque année en France. Mmh. Et parfois, c'est très subtil, donc on se dit, bon, c'est moi qui ai imaginé, c'est une caresse sur l'épaule, mais j'ai entendu combien de personnes me dire, mais j'ai l'impression que mon mari, qui est mort il y a 3 jours, il y a 4 jours, il y a une semaine, est venu dans le lit la semaine dernière. Il y a 20 ans de ça, mon producteur, qui est mort dans un accident de voiture, m'a donné lieu à une première expérience où sa compagne m'a dit 3 jours après, Denis est venu se coucher dans le lit hier soir. Et je voyais dans ses yeux qu'elle était complètement troublée par cette expérience, et elle ne me racontait pas de craque, et je sais très bien qu'elle n'imaginait pas. Si elle m'en parlait, c'est qu'elle avait été profondément troublée par ça. Ça montre qu'il y a une forme de sensibilité qu'on a tous plus ou moins et qui permet parfois l'effraction et l'intrusion de ce monde de l'au-delà dans notre quotidien.
Ça, c'est très fort, voilà, c'est très bouleversant. Il y a d'autres choses beaucoup plus anecdotiques, mais je voudrais vous faire parler. Je me souviens très bien, Jamal, de ce que vous m'avez dit un jour. Vous regardez la télévision, parce que vous venez à une émission d'Europe 1, vous dites, tiens, hier j'ai regardé la télévision, j'ai vu Jean-Louis Debré à la télé et j'ai vu un micro Europe 1 à côté. Bon, puis voilà, je m'en fiche un peu, l'anecdote passe. Et puis 6 mois après, je vois un communiqué de presse Europe 1, Jean-Louis Debré qui arrive dans l'équipe d'Alessandra Sublet, à Europe 1. Voilà, c'est un petit détail, mais c'est quelque chose que vous aviez perçu et que personne ne pouvait savoir, pas même, je pense, les dirigeants de cette maison à l'époque.
Exactement, parce que j'ai beaucoup de flashs aussi. Donc j'ai des perceptions, j'ai des flashs, je vois des gens et en même temps, je vois des choses qui vont se passer, se réaliser et je peux prévoir sur plusieurs mois aussi. Et je suis victime, j'ai des périodes, je suis victime de ça quasiment tous les jours et je suis obligé de faire face par rapport à ça, de contrôler mon côté médium, mais par moments ça me dépasse. Oui. Effectivement, il y a des moments, je regarde, je vois des gens, j'ai envie de les interpeller pour leur dire faites attention à ceci. Par exemple, je vous donne une anecdote. Il y a quelques temps, je travaillais avec une cliente au téléphone. J'étais en contact avec elle. Et à un moment donné, je lui dis, écoutez, madame, vous avez un problème de toiture. Je vois qu'il y a beaucoup d'eau chez vous qui tombe. Elle me dit, mais c'est incroyable. Mais comment vous le savez? Et là, j'ai dit, vous savez, je lui ai dit, faites attention. Et de temps en temps, je suis en contact. Elle me dit, mais écoutez, monsieur, ce que vous m'avez dit par rapport à ce qui est arrivé à la maison, m'a dit, ça m'a troublé. Mais j'ai des choses comme ça. C'est quasiment au quotidien.
Et vous développez cela aussi pour aider les autres et vous les encourager à aller.
Effectivement,
voilà,
effectivement, je voulais revenir là-dessus. Effectivement, j'aide beaucoup de gens. J'ai des témoignages de gens que j'ai sortis dans des situations très difficiles. Je les ai accompagnés pour un changement de vie, pour une situation qui était très difficile. Donc, ce que je regarde, j'aide beaucoup les gens dans des situations difficiles. On me le remercie énormément. Et je le sens que, par exemple, il y a des gens qui ont besoin d'aide. Je vais vers eux. Oui. Et je suis là. J'aide beaucoup les gens.
Eh ben merci beaucoup.
C'est mon côté clairvoyance, d'accompagnement, d'aider les gens, d'aider son prochain. Ouais. Et comme je fais avec tout le monde.
Et comme vous faites, Catherine Cavaillat. Hein.
C'est normal.
C'est normal parce que vous voulez mettre ce don à profit.
Ah ben c'est un minimum.
Ouais. Je mets mon don à profit, puis en plus je fais des rêves prémonitoires aussi, des choses comme ça. Et j'ai aussi je vous avais raconté il y a plusieurs mois, Wendy, effectivement, je vous avais envoyé un mail, je vous ai dit effectivement, j'ai visité le château de Petit Trianon, Marie-Antoinette, j'ai vu des choses, des phénomènes autour de moi. C'est quelque chose qui m'a énormément bouleversé.
Merci beaucoup, Jamal, pour ce témoignage. On poursuit avec votre lecture aussi des choses, de la perception des choses de Catherine Cavaillat. Vous, qui êtes médium et voyante à Paris, Stéphane Alix, toujours avec nous. Et Laetitia a une question pour nous au Standard, juste après la pause. N'hésitez pas à réagir aussi sur les réseaux sociaux. On vous écoute, Julie.
Avec le hashtag Europe 1.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Nous nous intéressons aux voyants et aux médiums ce matin. Comment ces hommes et ces femmes à votre écoute peuvent vous aider, vous guérir, vous apaiser? Wendy Bouchard.
Vous êtes fascinés et vous êtes nombreux à me redemander sur Twitter, hashtag Europe 1, le nom de nos invités. Les voici, Stéphane Alix, journaliste, écrivain, auteur de « Après, quand l'au-delà nous fait signe » aux éditions Albin Michel, et Catherine Cavaillat, qui est médium et voyante à Paris. Laetitia est avec nous, elle a une question pour vous au 3921. Bonjour Laetitia.
Bonjour, bonjour à tous. Alors, moi je vous appelle parce qu'il y a à peu près 13 ans, j'avais consulté une médium, j'étais allée chez elle, donc elle m'avait dit que j'avais des mains de médium et que je venais me conforter. On avait vu des personnes que je ressentais, donc je me suis confortée. Mmh. Et puis là, c'est l'année dernière, j'ai vu une carte ancienne, donc ça faisait 13 ans après, bon. Elle m'a annoncé ce que je pensais déjà, en fait, sur les miens. Elle m'a annoncé des choses sur moi que je ne pensais pas. Et puis j'ai doublé cette consultation d'une consultation de nouveau avec cette médium que j'avais vue il y a 13 ans, mais là cette fois-ci par téléphone puisqu'elle a déménagé, qui m'a dit exactement les mêmes choses que la carte ancienne.
Oui.
Donc moi, j'avais deux questions. Comment est-ce qu'on fait pour développer son don? Parce qu'en fait, quand la médium me parle et me dit qui elle voit, je vois exactement ce qu'elle voit.
Ah.
Et en plus, je peux lui donner des détails, et donc elle me dit oui, c'est tout à fait ça. Donc c'était assez troublant, mais moi j'étais contente en fait, hein, parce que j'ai souvent des flashs comme ça.
Ça vous a conforté dans l'idée que vous aviez quelque chose, un don peut-être à cultiver.
C'est ça. Oui. Mais je me dis, mais comment je fais? Je sens que j'ai ça, mais comment je fais?
Comment on fait pour développer ça? Bonne question. Je ne sais pas si vous pouvez répondre. Alors, Catherine Cavaillat va vous répondre.
Bonjour, c'est Laetitia.
Bonjour,
Laetitia.
Voilà.
Oui, enchantée, voilà. Laetitia. Alors effectivement, là vous nous décrivez une situation qui est pour moi évidente. Vous êtes médium.
Oui.
Voilà. Donc pour le développer, j'ai envie de vous dire, exercez-vous avec des amis. N'hésitez pas à aller sur des forums de voyance gratuite. Ça marche aussi de pouvoir répondre à des gens qui ont besoin sur l'instant d'une réponse et puis vous voyez si effectivement vous avez un retour qui vous dit bah oui, ce que vous m'avez dit est juste. C'est comme ça que vous allez entretenir ce don.
On a besoin d'une technique ou de quelque chose, parce que je sais pas en fait, c'est assez bizarre, je peux pas vous dire.
Une technique alors.
Là, vous me parlez de voyance, on ne parle pas de médiumnité, vous me parlez de voyance. Donc, pourquoi
parce que,
effectivement...
du coup, la cartomancienne m'a dit d'essayer avec les cartes, parce que c'est vrai, quand elle les mettait, au début, je ne regardais pas, puis après, j'ai regardé, je voyais bien ce qu'elle allait me dire. Alors, elle m'a dit d'essayer de développer avec ça, mais je n'ai pas le même ressenti, quand même.
Oui, parce que les cartes ne sont qu'un support pour vous. Si vous ressentez, voilà. si pour vous, c'est une évidence, c'est donc que vous n'avez pas besoin de cartes.
D'accord.
Voilà, bah, tout simplement.
C'est intéressant comme témoignage, Laetitia. Merci. Stéphane Alix, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut avoir potentiellement ces dons-là qui ont été enfermés, peut-être par notre éducation, par les carcans. On a des gens autour de nous auxquels on parle parfois même à voix haute, des gens disparus. Est-ce qu'on est, pour vous, qui avez travaillé sur l'au-delà, un peu auréolé par des anges gardiens, des gens qui nous surveillent ?
Moi, j'inviterais quand même à beaucoup de prudence. Je pense qu'effectivement, on est tous plus ou moins sensibles à ces univers-là. On peut être très sensible, comme Laetitia, et capter des choses. Mais il y a un saut quantique entre être sensible et commencer à prendre la responsabilité d'annoncer des choses à des gens, à des amis, à des proches. Oui. Pour moi, ça, c'est très dangereux. C'est là où il y a une vraie dérive. Laetitia, vous avez cette sensibilité, vous avez cette capacité, ça peut vous aider dans votre vie. Mais avant de commencer à vous instituer voyante, il faut déjà apprendre à mieux vous connaître, apprendre à connaître vos zones d'ombre, toutes ces choses enfouies en vous qui peuvent aussi parasiter ces perceptions en parasitant avec des désirs, des fantasmes, des peurs qui sont votre monde intérieur. En fait, on a tous un monde intérieur. Pourquoi est-ce qu'un psychanalyste, avant de pratiquer, il fait une longue psychanalyse lui-même ? Oui. Pour apprendre à se connaître. Oui. Et je pense que les voyants et les médiums gagneraient aussi à faire ce travail d'introspection pour apprendre à se nettoyer un petit peu avant de projeter sur les autres choses qui sont un peu du domaine du fantasme.
C'est sûr qu'on ne développe pas des dons de médium, Laetitia, en quelques mois comme vous, depuis
il
quasiment
faut
la tendre enfance,
vie.
Catherine Cavaglia. Voilà, c'est une vie.
Depuis d'ailleurs, je voyais déjà des choses, mais d'accord. Je ne pouvais pas en parler.
C'était un peu occulté, c'était un peu caché.
Voilà. Ouais. Ah bah ça,
c'est l'un des rares...
Plus je vieillis, plus je les ressens, donc c'est de plus en
exactement.
Plus fort. En fait.
C'est l'une des rares disciplines où l'âge, où l'avancement dans l'âge est une force.
Merci Laetitia, voilà quand pour ces premiers éléments de défense.
Quand elle est bien pratiquée,
c'est ça. Juste après la pause, Athéna veut témoigner de son point de vue sur les médiums, sur les voyants qu'elle a pu côtoyer. A tout de suite sur Europe 1, jusqu'à 11h, on fait le tour de la question.
Les dernières minutes du tour de la question le sujet de l'astrologie, de la voyance et de la médiumnité. Wendy Bouchard.
Avec la nécessaire éthique qui doit accompagner aussi cette discipline, ces dons aussi, Catherine Cavaglia, on ne dit pas tout à la personne qu'on a en face de soi. J'imagine que vous avez des hommes, des femmes qui sont en détresse et votre humanité, au-delà de votre don de médium et de voyante, parle aussi.
Bien sûr, il faut respecter l'autre.
Donc
en
vous
fait.
Pouvez voir des choses que vous ne vous sentez pas en situation à ce moment-là de dire, parce que ça peut être pire que mieux.
Mais bien sûr, c'est vain. La voyance, ça peut être vain également. Mmh. Et la médiumnité, parfois également. On ne peut pas tout dire.
C'est pour ça qu'il faut éviter les charlatans. Alors Stéphane Alix, nous fait une belle jambe quand on dit ça, parce qu'il n'y a pas, de répertoire aujourd'hui des grands professionnels.
Mais il faut faire preuve de soi-même de discernement. Mmh. Vous savez, si vous avez besoin de parler, allez voir un psy. Ça vous coûtera beaucoup moins cher qu'un voyant.
Oui, exact.
Et, mais c'est pas du tout la même démarche quand même.
Non, mais il vous écoutera avec beaucoup plus d'efficacité en mettant le doigt sur vos blessures, en vous aidant. Un voyant, il n'est pas là pour vous écouter parler. Un voyant, il est là pour éventuellement apporter un éclairage sur une question extrêmement précise.
Oui. Choix de vie, parcours professionnel. Bah, ça, c'est pas un psy qui peut vous le dire, évidemment.
Non, et quand on va demander une question comme ça à un voyant, il faut être aussi dans la vigilance par rapport à ce que va dire le voyant. Il peut se tromper. Qu'est-ce qui vous dit que ce voyant est juste ?
Ben c'est sûr, oui.
Il y a une voyante qui est devenue une amie, qui s'appelle Maud Christen, qui est assez connue, qui travaille beaucoup avec des chefs d'entreprise qui viennent la voir pour des projets de développement de telle ou telle activité. Maud passe une première partie de son entretien à essayer de dire des choses que le consultant va pouvoir confirmer. Et si elle tombe juste pendant les 10 premières minutes, ça veut dire qu'elle est branchée sur le consultant et elle sait qu'elle est à peu près dans une forme de justesse.
Je suis d'accord.
Mais il lui arrive dans 20% des cas d'être complètement à côté de la plaque. Et là, à ce moment-là, il dit au consultant, écoutez, il y a quelque chose qui ne passe pas, je ne capte pas. Vous ne me devez rien, on arrête là. Et cette éthique, elle est importante parce que ce n'est pas systématique, c'est une disposition humaine qui a des défauts, des biais, des parasitages possibles. Donc, même si vous allez voir des voyants qui ont une bonne réputation, qui sont réputés, qui sont honnêtes, faites attention parce que tout ce qui va être dit n'est pas forcément à prendre pour argent comptant.
Et c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut éviter de parler pendant la consultation.
Oui, il faut lâcher prise, c'est ça ?
Il faut que le consultant arrive et évite de se dévoiler le plus possible, le moins possible, pardon, parce qu'il y a malgré tout un process. C'est-à-dire que moi, lorsque le consultant vient me voir, je lui donne ses dates vibratoires passées. Et si je lui donne des dates vibratoires passées qui correspondent effectivement à des événements qu'il a vécu, je lui parle de sa toute petite enfance, de ses 1 an, de ses 2 ans, de ses 7 ans, de ses 23 ans. Si vous avez un voyant, un médium qui vous donne des dates de votre passé et ce que vous vivez au présent, vous pouvez...
Ça vous met en confiance.
Voilà,
là.
Ça met en confiance.
Ça veut dire qu'il faut être assez solide quand on vient vous voir.
Mais c'est-à-dire qu'en fait, il faut me laisser parler. Oui. Parce que je crois que les gens qui viennent voir un voyant et qui s'expriment trop donnent au voyant déjà une vibration... qui
est vous loin, perturbe.
Mais voilà, oui, c'est ça, qui est perturbante.
Athéna, vous avez déjà peut-être des éléments de réponse. Vous venez d'entendre pas mal de choses. Bonjour à vous.
Oui, bonjour à toute l'équipe. Merci. Oui, c'est tout à fait cela. Parce qu'il y a il y a un an à peu près, j'ai eu une voyance par téléphone. Mm-hmm. Je voulais savoir un petit peu ce qu'il en était. Et la personne a pris juste ma date de naissance et je n'ai pas parlé. J'ai eu droit à ceci, cela, etc., qui va se passer. Et depuis un an, rien ne s'est fait.
D'accord.
Alors, je voudrais comprendre pourquoi, sur certaines personnes, les vibrations que cette personne reçoit peuvent être positives, donc dans leur avenir, et sur d'autres, ça ne fonctionne pas.
Alors, est-ce que ça ne fonctionne pas ? Est-ce que vous n'êtes pas tombée sur la bonne personne, Athéna ? C'est possible aussi, parce que voyance par téléphone, vous ne connaissiez pas la personne, Athéna.
Non, je ne la connaissais pas. C'était un nom que l'on m'avait donné.
D'accord.
J'ai deux personnes qui avaient été la voir,
d'accord.
Mais je dois dire que les deux autres personnes aussi n'ont rien eu.
Oui, bon, alors bon, Stéphane Alix,
la connexion, il faut peut-être simplement éviter d'appeler la personne.
Ah ouais.
Voilà. Elle est peut-être voyante comme moi, je suis le pape.
C'est ça aussi.
Oui. Mais aussi.
Ou alors, Catherine Cabaya.
Aussi, il y a aussi une question de connexion qui ne s'est pas établie.
Oui, mais sur trois personnes, ça peut arriver.
Ça peut arriver.
C'est-à-dire
si moi, je vais voir un chirurgien cardiaque et que sur trois personnes, il en rate trois, je ne vais plus le voir.
Oui, mais c'est arrivé que des chirurgiens cardiaques ratent des gens.
Oui.
Ou des chirurgiens esthétiques ratent des personnes.
Oui,
ça veut dire que la personne... Ça veut dire quoi ?
J'entends bien.
Ça veut dire quoi quand la connexion ne se fait pas, Catherine ? C'est-à-dire que la personne en face est fermée ou que vous n'arrivez pas justement à entrer dans...
On peut ne pas réussir à se connecter à la personne. Mais alors, à ce moment-là, il faut avoir... l'honnêteté
de dire
à son consultant, écoutez, là aujourd'hui ça le fait pas,
c'est ça
va pas le faire, nous,
oui,
ça va pas le faire,
oui,
moi il m'est arrivé de dire à une personne ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas
parce que vous êtes trop stressé en face, il y a des choses qui vous dépassent.
C'est ainsi, c'est pour ça que je n'aurai jamais de secrétaire, j'adore avoir les gens au téléphone pour savoir si je les ressens déjà dans un premier temps, c'est très très important.
Si Athéna, vous voulez peut-être reconsulter, je ne sais pas comment fait-elle pour trouver une bonne personne. Vous avez Catherine Cabaya, je ne sais pas, vous
le
faites
meilleur,
des consultations par téléphone aussi, ça vous arrive ?
Mais le mieux c'est le bouche à oreille malgré tout. Alors ça n'a pas fonctionné. Dans le cas d'Athéna.
Oui.
Mais
mais manifestement Athéna n'a pas écouté les conseils de ses deux amis pour qui ça n'a pas marché, parce que là le bouche à oreille était extrêmement clair sur l'inefficacité.
En tout cas,
il n'y
a pas de répertoire des professionnels de ces sciences-là.
Il y en a.
Pour terminer,
mais ça
existe.
Pas une garantie non plus.
Exactement.
Vous passez par nos invités aussi pour mieux comprendre. Catherine Cavaya, qui est médium, qui est voyante à Paris. Vous trouvez sur internet aussi ses coordonnées. Stéphane Alix, auteur de Après, quand l'au-delà nous fait signe, chez Albin Michel, et de l'excellent livre Test, dont vous nous racontiez déjà un certain nombre d'expériences. Merci à tous les deux pour ce tour de
Merci.
La question. À vous, chers amis, très nombreux aujourd'hui encore pour nous écouter et réagir. Ma chère Julie, je vous dis à demain à partir de 9h. Merci à toute l'équipe géniale du Tour de la question qui m'aide au quotidien.
C'était Wendy Bouchard, à demain.